Bonjour et bienvenue en Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Il est important de remonter aux origines de l'humanité pour mieux comprendre notre histoire, ainsi que celle du monde d'aujourd'hui.
Et le récit de nos origines se trouve dans le livre biblique de la Genèse. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons commencer une étude sur les chapitres 2 et 3 de ce livre.
Écoutons pour commencer la lecture de Genèse chapitre 2, versets 4 à 14. Ensuite, Yann poursuivra ses discussions en compagnie de notre invité Étienne.
Telle est l'histoire de ce qui est issu du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés. Au temps où l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'existait encore sur la terre aucun arbuste et aucune herbe des champs n'avait encore germé, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. De l'eau se mit à sourdre et à irriguer toute la surface du sol. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière du sol. Il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin vers l'Orient, l'Éden, le pays des délices. Il y plaça l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable portant des fruits délicieux, et il mit l'arbre de la vie au milieu du jardin. Il y plaça aussi l'arbre du choix entre le bien et le mal. Du pays d'Éden sortait un fleuve qui arrosait le jardin. De là, il se divisait en quatre bras. Le nom de l'un était Pishon. Il contourne tout le pays de Havila, au sol gorgé d'or, un or d'excellente qualité. On trouve aussi dans cette contrée de l'ambre parfumé et la pierre précieuse appelée Onyx. Le deuxième fleuve s'appelait Gihon. Il parcourt toute l'Éthiopie. Le troisième fleuve s'appelait le Tigre. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Et le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate.
Merci Sandra et bonjour Étienne. Merci d'être de retour sur le plateau d'Espérance aujourd'hui.
Merci Yann et bonjour à tous.
Étienne, lors des missions précédentes, nous avons étudié le récit de la création trouvé dans Genèse chapitre 1. Et aujourd'hui, en lisant ces versets dans Genèse 2, nous découvrons un second récit toujours sur la création. Mais pourquoi en existe-t-il deux?
Il est vrai que ces deux récits racontant la création sont bien distincts. Toutefois, ils ne renferment aucune contradiction. Tous deux déclarent que Dieu créa toutes choses. Cependant, l'un et l'autre approchent le thème de la création sous deux angles, deux perspectives différents. Le premier récit se présente davantage comme un traité théologique sous forme poétique. Il passe en revue tout ce que Dieu a créé, en commençant par la lumière pour finir avec l'homme. Il met l'accent essentiellement sur la nature souveraine de Dieu, sa puissance et sa bonté. Il affirme, dans un monde où les idoles sont fort répandues, qu'il n'existe qu'un seul Dieu, que lui seul est digne de confiance et d'adoration. Quant au deuxième récit de la création, commençant en Genèse au chapitre 2, il se lit davantage comme de l'histoire. Après les chapitres 2 et 3, que nous étudierons pendant cette série, l'histoire se poursuit à travers des siècles jusqu'au jour de Joseph. La place de Dieu dans ces chapitres demeure importante, mais le centre d'attention est essentiellement l'humanité. Peu de détails nous y sont relatés sur la création du monde et de la nature. Ainsi, le livre de la Genèse relate surtout les origines du peuple de Dieu, appelé Israël, qui débute avec leur père Abraham. Cependant, ce livre remonte plus loin dans le passé pour dévoiler les origines de l'homme avec la création de leurs premiers ancêtres, Adam et Ève.
Merci Étienne. Et pour revenir au texte lu aujourd'hui, que pouvons-nous en apprendre?
Tout simplement que Dieu est le créateur de toutes choses, du ciel et de la terre, des plantes et de tout ce qui existe dans la nature. Il est également le créateur de l'humanité.
Et selon l'extrait biblique lu, l'Éternel créa le premier homme à partir de la poussière du sol. Or, ceci est en contradiction avec les théories sur les origines de l'homme très répandues de nos jours.
C'est exact, Yann. Ces théories suggèrent que l'homme descend d'autres espèces par un processus progressif de mutation génétique, autrement dit, par un processus d'évolution. Cependant, le texte de Genèse, chapitre 2, attribue l'origine de l'homme à une intervention divine. Dieu créa l'homme de la poussière, et il est vrai que l'on trouve dans la terre tous les éléments constituant l'homme. Ainsi, selon la Bible, l'homme n'est pas le fruit du hasard, mais bien plutôt le résultat d'un choix, du désir de Dieu. Mais comment expliquer que les éléments inertes trouvés dans la terre se mirent à vivre ? Le texte nous oriente vers Dieu. Dieu est vivant et il est la source unique de la vie. Dieu souffla cette vie en l'homme, la vie vient de Dieu.
Et puis Dieu place l'homme en un lieu précis créé pour lui, appelé le jardin d'Éden. Parlez-nous de cet endroit.
Oui, le nom de ce jardin peut aussi être traduit comme le jardin des délices ou bien le paradis. C'est un lieu idyllique, un environnement idéal pour l'homme. Il y trouvait tout ce dont il avait besoin et tout y était agréable. À travers Genèse chapitre 1, la bonté de Dieu nous est révélée, car le texte nous déclare que tout ce que Dieu créa était bon. En Genèse chapitre 2, en dépeignant ce paradis, l'auteur affirme encore que Dieu est bon. Dieu a placé l'homme dans un environnement merveilleux. Il lui confia de bonnes choses. Ses intentions pour lui étaient justes. De plus, Dieu était présent avec l'homme dans le jardin. Il représentait un lieu de communion privilégié, un endroit où il pouvait rencontrer l'Éternel et le connaître.
Et au cœur de ce jardin merveilleux se trouvaient deux arbres appelés l'arbre de la vie et l'arbre du choix entre le bien et le mal.
Oui, ces deux arbres vont jouer un rôle important dans le déroulement de l'histoire de l'homme. Nous en parlerons d'ailleurs davantage la prochaine fois.
Et lorsque Dieu créa le monde, tout y semblait idyllique et merveilleux. Mais Étienne, avouons-le, ce n'est plus le cas aujourd'hui.
C'est exact, Yann. Et lorsque nous avancerons dans nos réflexions sur le livre de la Genèse, chapitres 2 et 3, nous découvrirons pourquoi. Ces chapitres nous présentent le paradis. Ils nous expliquent ensuite pourquoi l'homme en a été chassé, pourquoi il a perdu le droit d'y rester. Mais je voudrais plutôt conclure aujourd'hui sur une note positive.
Laquelle ?
Le reste de la Bible nous raconte ce que Dieu va réaliser pour reconduire l'homme dans le paradis. Genèse chapitre 3 se termine sur ce fait que les hommes n'ont plus accès à l'arbre de la vie, c'est-à-dire à la vie éternelle. Toutefois, dans le tout dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, nous apprenons que le jour viendra où le peuple de Dieu, les croyants, auront de nouveau accès à cet arbre. De ce fait, ils vivront éternellement dans un endroit idyllique semblable au paradis, décrit en Genèse 2. J'invite Sandra à lire la vision de cette espérance idyllique que Dieu réserve aux siens. Ce texte se trouve dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, les versets 1 à 5.
Finalement, l'ange me montra le fleuve de la vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de l'avenue de la ville, entre deux bras du fleuve, se trouve l'arbre de vie. Il produit 12 récoltes, chaque mois il produit son fruit. Ses feuilles servent à guérir les nations. Il n'y aura plus aucune malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront sa face et porteront son nom sur leur front. Il n'y aura plus jamais de nuit. On n'aura donc plus besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil. Car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, et ils régneront éternellement.
Merci Sandra. Nous remercions aussi Étienne pour son enseignement. Il sera de retour parmi nous la prochaine fois pour nous parler de la suite de ce récit si important.
La vision trouvée dans le livre de l'Apocalypse est merveilleuse. Elle nous apporte un espoir dans le contexte de l'enseignement d'aujourd'hui. Aussi ai-je demandé à Bernard de nous en apprendre davantage lors de sa courte méditation biblique. Bonjour Bernard.
Merci Ian et bonjour à tous. À cause de la désobéissance de nos premiers ancêtres, Dieu chassa les hommes du paradis afin de les empêcher de manger du fruit de l'arbre de la vie. C'est la raison pour laquelle nous mourrons tous un jour. Toutefois, dans cette belle vision sur l'avenir de l'humanité que Dieu accorda à l'apôtre Jean, l'arbre de la vie réapparaît. Mais où se trouve-t-il exactement ? Il est planté là où demeurera le peuple de Dieu. Cette vision accordée à Jean dépeint un tableau donnant un petit aperçu de ce que sera la vie des croyants ressuscités d'entre les morts. Si le chapitre 3 du livre de la Genèse nous raconte comment l'humanité a perdu le privilège de vivre dans le paradis, cette vision relatée dans l'Apocalypse, chapitre 22, offre l'espérance du paradis bientôt retrouvé. En Genèse chapitre 2, le paradis consistait en un jardin idyllique, habité seulement par deux personnes. Dans l'Apocalypse, le paradis est décrit comme une cité importante, peuplée par une multitude de croyants, rachetés par le sang de Jésus-Christ. L'arbre de la vie est présent dans les deux paradis, et son rôle est de donner la vie, la vraie vie, la vie abondante, la vie éternelle, la vie qui consiste à connaître Dieu et à marcher avec lui. Il est également intéressant de noter que les feuilles de l'arbre de la vie décrites dans l'Apocalypse servent à guérir les nations. Quel est le sens de ces paroles? Tout au long de l'histoire, les êtres humains ont eu tendance à se séparer suite à des divisions pour constituer des groupes affirmant leur propre identité. Ces groupes se sont constitués en fonction de leur race, de leur pays ou de leur tribu. S'identifier à un groupe particulier est naturel. Toutefois, l'histoire est malheureusement parsemée de conflits et de guerres opposant un pays à un autre, des tribus les unes aux autres. Il arrive même qu'un groupe ethnique ou une nation commette des atrocités envers des minorités, que ce soit en les soumettant à l'esclavage ou en les exploitant, ou encore en ayant recours à un génocide. Les nations victimes, blessées et meurtries projettent souvent de se venger et de nouveaux conflits apparaissent. Tant et si bien qu'il devient difficile de sortir de ces cercles vicieux de violence. Cependant, la vision de Jean prouve qu'il n'en sera pas ainsi dans la vie éternelle, car l'arbre de la vie guérira les nations. La multitude de croyants habitant le paradis sera composée de gens de toute race, de tout pays et de toute tribu. Chacun, pensons-nous, gardera son identité. Toutefois, grâce à cet arbre de la vie et de ses feuilles curatives, nous vivrons une vraie réconciliation avec tous ceux qui nous auront blessés. Nous vivrons en paix et dans l'harmonie avec eux, et toutes les cicatrices ou blessures émotionnelles du passé disparaîtront à jamais.
Merci Bernard pour ces belles paroles qui nous rappellent notre espérance et redonnent un espoir à tous ceux qui sont éprouvés par toutes sortes de terribles conflits.
Nous devons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous vous remercions pour votre écoute et espérons vous retrouver bientôt. Au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.